étrange. Avez-vous peur de moi? Ou avez-vous peur de François? Pour être aussi assis aussi loin et plein de chaises vides devant. Et pour ceux qui n'entendent pas, c'est toujours curieux, ceux qui n'entendent pas se mettent au fond. Alors que si vous veniez devant, vous entendriez peut-être mieux. Ah, voilà. Voilà des paroissiens obéissants. Voilà. Notre ministère à Murquelé et moi est un ministère inter-ecclésiastique. Moi, j'accompagnons différentes églises dans différentes situations, ce qui explique que, mais ça nous l'avions un peu dit au début, que nous serions des membres détachés à d'autres églises, et donc en partie notre absence est due aussi à ces accompagnements particuliers. Muriel est pas très bien, c'est pas très grave, comme ça je vous le dis, comme ça ça évite que chacun vienne me poser la question très fraternellement et très affectueusement, bien sûr. Donc elle n'est pas très bien, c'est pour ça qu'elle n'est pas avec moi ce matin, mais elle vous salue bien. Alors aujourd'hui c'est le 1er mai. J'ai pas vu, j'ai un magnifique bouquet. Je n'ai pas vu de muguet, peut-être qu'on ne fait pas la fête du travail. Alors, la chose particulière, c'est qu'en général, la fête du travail, on ne travaille pas. C'est curieux, mais je vous invite, parce que c'est dans mon thème, à réfléchir au travail. Et puisque je vous invite les uns et les autres à construire un mur, en tout cas, à regarder ceux qui ont été appelés à construire un mur et à tirer des leçons spirituelles au travers de cette construction du mur de Jérusalem, tirer des leçons pour la construction de l'Église. Et le thème que j'aimerais aborder ensemble, j'aimerais que nous abordions ensemble ce matin, je pense qu'il va s'afficher. Si, alors, il faut que j'appuie là, on m'a dit. Alors, mais c'est pas vrai, ça fonctionne. Non, je ne doute pas de la technique, hein, je doute de mes capacités de technicien. Voilà, le thème ce matin que je vous propose donc d'aborder ensemble, c'est construire ensemble. Construire ensemble, et c'est à l'Église, que je pensais à l'Église locale comme à l'Église universelle. Construire ensemble une église, c'est un défi immense, un défi auquel nous sommes appelés les uns et les autres, frères et sœurs, appelés par Dieu, des frères et sœurs d'origine différente. Il y a parmi nous des Suisses, parmi nous des personnes d'origine allemande. Vous avez devant vous quelqu'un qui est d'origine africaine, d'Afrique du Nord, avec aussi des arrière-plans sociaux différents, d'arrière-plans religieux et culturels différents, d'âges très divers. Et c'est un véritable défi que de se mettre ensemble pour construire l'Église de Jésus-Christ sous la conduite de l'Esprit-Saint. C'est donc un défi qui ne pouvait pas venir tout simplement de l'esprit humain, tant cette mise en commun des différentes personnalités pour un but unique est impensable. Nous vivons et nous voyons dans une société qui est divisée, qui est sectorisée, où tout est compartimenté, et où il est extrêmement difficile, et nous l'avons vu au milieu des élections nationales, comme il est difficile de rassembler un peuple. Il y a le général de Gaulle qui disait, en France, il y a 50 millions de sujets, sans parler des sujets de mécontentement. Vous voyez? Comment s'y prend-on pour parvenir à bien nous coordonner, nous articuler les uns les autres? Quelle piège évité. Et dans tout mon parcours depuis ma retraite, et pendant mon ministère, j'ai vu combien vivre l'unité dans un but unique, la construction de l'Église, est quelque chose d'extrêmement difficile. Les pièges sont nombreux. Et je propose justement de glaner quelques éléments, je dis bien quelques éléments, la liste n'est certainement pas exhaustive, de réponses à ces questions au fil justement des trois premiers chapitres du livre de Néhémie. Ah bon ? Du livre de Néhémie. Alors, je ne vais pas te faire de lecture d'un chapitre ou l'autre, il y aura un chapitre 3, je vous épargnerai la lecture parce que c'est en fait une liste de noms. Il faut un gosier entraîné à la langue hébraïque pour ne pas écorcher chacun des noms, donc je ne ferai pas la lecture, je vous laisserai le soin de lire cette liste, mais je glanerai ici et là quelques passages. La première des choses, donc, ce sont, je vous propose, des incontournables. Vous savez, il y a des choses qu'il faut absolument ne pas passer à côté. Et c'est donc ces incontournables pour construire ensemble. Et la première chose que je vous propose comme élément incontournable et sur lequel j'aimerais m'arrêter ce matin, c'est tout d'abord pour construire ensemble, il faut d'abord se soucier de l'œuvre de Dieu. Se soucier de l'œuvre de Dieu. Première des choses qui arrivent à Néhémie, il dit ceci, lorsque j'entendis ces paroles, alors de quoi s'agit-il? Néhémie vient d'apprendre, nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, bien entendu, Néhémie est en déportation, déporté à cause du péché du peuple. Le peuple est en déportation, Néhémie est né en déportation, pour être plus précis. Et là, il apprend des nouvelles. Il y avait une correspondance entre ceux qui étaient restés à Jérusalem et ceux qui étaient déportés. Il apprend que les murailles de Jérusalem sont dans un état de ruine. Et que le peuple qui est resté encore, la partie du peuple qui est restée encore à Jérusalem, ne se soucie absolument pas de la reconstruction de ces murailles, de la restauration de ces murailles. Et ces murailles sont la source des sécurités de la ville de Jérusalem. Et lorsqu'il entend cela, la première chose qu'il habite, c'est une tristesse profonde. Lorsque j'entendis Néhémie 1:4, lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu du ciel. Il nous arrive d'être triste, n'est-ce pas? Pour différents sujets, profondément tristes. Les causes de cette tristesse sont variées, plus ou moins profondes. Néhémie a peut-être connu, lui, bien des sujets de tristesse. Mais la raison de cette tristesse dans ce passage, ce qui l'accable au point de frôler la dépression, c'est l'état dans lequel se trouve la ville de Jérusalem. La ville que Dieu s'est choisie pour y établir son temple. La tristesse de Néhémie reflète de manière profonde le souci qu'il a de l'œuvre de Dieu. Il a un tel attachement à Dieu qu'il ne peut supporter que Jérusalem, cette ville si chère aux yeux du Seigneur, soit dans un tel état d'humiliation. Derrière l'humiliation de la ville, c'est le nom de Dieu qui est humilié. Et Néhémie ne peut le supporter. Sommes-nous, nous-mêmes, aussi imprégnés du souci de l'œuvre de Dieu que lorsque cette œuvre est malmenée, nous sommes dans un état de tristesse profond? Est-ce que parmi tous les soucis, tous les sujets de tristesse légitimes, où se situe notre souci de l'œuvre de Dieu, au point que nous vibrons avec la vie de l'Église? Cette œuvre de Dieu, c'était l'Église et l'œuvre du Seigneur. Elle est le temps. temple de l'Esprit Saint, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 3,16, ou la Jérusalem céleste, pour employer les images de Jean dans son Apocalypse 21. Nous sentons-nous concernés par la vie de l'Église, par son présent, par son avenir. Vibrons-nous à ses joies, vibrons-nous à ses peines. Nous partageons avec Néhémie ce souci pour l'œuvre de Dieu. Alors, parfois, dans l'Église, il y a malheureusement de quoi pleurer. Nous est-il déjà arrivé d'être triste en voyant l'œuvre de Dieu malmenée dans notre Église locale, mais aussi ailleurs, parfois maltraitée? Et c'est le cas de ces chrétiens qui vivent dans des pays totalitaires où la liberté religieuse n'est pas respectée. Je pleure en ce moment pour l'Algérie. Les églises fermées. Le président de l'Église protestante d'Algérie passé au tribunal, 18 mois de prison. Je prie et je pleure aussi à l'égard de missions, dévastées par la folie des chrétiens, par leur indifférence. Je pleure aussi à l'égard d'églises divisées par l'orgueil, la jalousie. J'ai dû, par téléphone, régler un problème de division dans l'église. Vous savez quel était le sujet de division? Une armoire. Une armoire. Une armoire dans un appartement appartenant à l'église qui devait être déplacé. Et puis, quelqu'un devait aider à déplacer. Celui qui organisait ce déménagement de l'armoire est arrivé, mais il lui a posé, comme on dit, un lapin. On rigole. Et combien de fois les sujets de division sont tellement puérils. Passer 2 heures au téléphone pour essayer d'expliquer à celui qui avait organisé ce déménagement qu'en fait, une heure d'attente ou une heure de perdu, puisque ça valait le coup de mettre le feu dans l'église. Je n'invente rien. Combien de fois les dérives de l'Église n'ont-elles pas semé le trouble dans son témoignage auprès des non-croyants? Et ce frère, engagé dans l'Église, comment va-t-il expliquer à ses enfants qu'il quitte l'Église pour une histoire de rendez-vous manqué? L'amour de Néhémie pour Dieu est tel qu'il pleure face à l'état déplorable dans lequel se trouve la ville de son Dieu. Construire ensemble. Cela commence par un attachement profond à l'œuvre de Dieu. Nous ne pourrons pas construire ensemble si nos cœurs restent trop attachés à d'autres objectifs que celui de servir les desseins du Seigneur. Néhémie n'en reste pas aux lamentations. Dans sa détresse, prier. Mais voilà la prière. Se placer devant Dieu. Néhémie n'en reste pas aux lamentations. Dans sa détresse, il prie. Chapitre 1, versets 5 à 11. Et sa prière mérite qu'on s'y arrête. Lorsque nous sommes moralement abattus par la situation parfois désastreuse de l'œuvre de Dieu, notre réflexe pourrait être de mettre une distance froide entre nous et ceux que nous tenons comme responsables de ce désastre. Certains vont même plus loin, ils ne veulent même plus remettre les pieds dans une église. On ne s'engage plus. On se tient loin, parfois très loin de l'église. Et c'est le choix que font certains. On peut comprendre ces traumatismes. Mais est-ce ainsi que l'on peut réellement guérir? Néhémie nous indique un autre chemin, versets 6 et 7. Et je trouve ça remarquable, si jamais j'arrive. Je n'y arrive pas, c'est pas grave. Versets 6 et 7. Dans sa prière, alors que lui-même est né en exil, c'est très intéressant, lisez cette prière. Jamais il va se déresponsabiliser de la faute qui est commise par le peuple. Néhémie n'y est pour rien dans la raison qui a causé la déportation. Il n'était pas à Jérusalem, il est né dans l'exil. Et dans sa prière, alors qu'il est lui-même en exil, dans sa prière, il emploie le « nous » pour désigner les responsables qui ont conduit au désastre de la déportation. Néhémie ne faisait pas partie de la génération de ceux qui n'ont pas écouté l'Éternel, mais pour autant il ne se dédouane pas devant Dieu, en se considérant comme supérieur à ceux qui, parmi la génération précédente, avaient été infidèles. Celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Nous ne pouvons construire ensemble si nous ne sommes pas prêts à reconnaître que nous sommes faits de la même pâte que les autres, solidaires dans notre malheureuse incapacité à toujours restreindre les élans du vieil homme qui remontent à la surface. Luther disait ceci, je pensais avoir noyer le vieil homme, les bougres, le bougre, il savait nager. Avoir conscience de cette réalité nous aide à intégrer que nous sommes les uns et les autres bénéficiaires de la même grâce. Humilité et solidarité sont cruciaux pour pouvoir œuvrer, cruciales pour pouvoir œuvrer avec les autres. J'aimerais juste qu'on arrive, si tu peux, j'aimerais une initiative qui repose sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Une prière qui repose sur les promesses de Dieu. Tu arrives à mettre ça dans le point? Non. C'est pas grave. Je cite le point. Une promesse qui repose sur une prière qui repose sur les promesses de Dieu. L'initiative de Néhémie repose non pas sur une lubie, sur une ambition personnelle, mais sur le projet de Dieu pour son peuple. Et c'est ce qu'il rappelle également dans sa prière au verset 8 et 9. Le retour du peuple dans son pays était une promesse de Dieu. Deutéronome 30, versets 1 à 6. La reconstruction du temple de Jérusalem faisait partie de ce que les prophètes avaient annoncé de la part de Dieu. Et c'est sur ces promesses que Néhémie fonde son action. Si ce que poursuivent nos efforts n'est que le projet d'un homme, n'est que notre propre pensée, notre propre désir, notre travail incommun ne durera pas longtemps, probablement pas beaucoup plus longtemps que celui qui a initié le projet. Il y a là tant de projets humains divers, mais si nos efforts s'inscrivent dans la poursuite du désir de Dieu pour son peuple, ils seront unifiés dans la cohérence des desseins de Dieu et leur résultat sera durable. Nous devons intégrer les plans et les directions de Dieu pour poursuivre ensemble quelque chose qui tienne la route. Sur quel fondement repose notre projet? Sur nos idées personnelles? Sur nos ambitions? Une vision que nous avons à cœur? sur la parole de Dieu, le Dieu de tes promesses, qui est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Et c'est autour de ces promesses que Néhémie pourra rassembler le peuple, autour de la parole de Dieu. On ne dira jamais assez l'importance de la prière dans l'entreprise de bâtir ensemble avec le Seigneur. On est mis aussi légitime que soit son projet. Même s'il repose sur les promesses de Dieu, il ne peut se faire sans lui. Chapitre 1 à 11. Veuille prêter, dit Néhémie, attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment te vénérer. Néhémie sait qu'il n'est pas le seul à prier pour l'œuvre de Dieu. Il a conscience de faire partie d'une chaîne de croyants qui prient ou ont prié pour la reconstruction de Jérusalem. Mais il se confie en celui qui les entendra. Et la réponse est immédiate. Dieu entend. 4 mois plus tard, l'empereur perse voit sur le visage de Néhémie la tristesse que lui inspire la situation de Jérusalem. Et la réaction de l'empereur est alors imprévisible. Les serviteurs royaux ne devaient rien laisser paraître de leur vie privée dans l'exercice de leurs fonctions. Néhémie risquait sa vie. Mais l'attachement à l'œuvre de Dieu et la certitude de s'appuyer sur sa promesse lui donne un moment opportun, une audace qui va au-delà de ce qu'il avait tout prévu. Non seulement l'empereur va l'autoriser à partir, mais en plus de ça, il va lui donner les matériaux nécessaires pour la reconstruction du temple. Il obtient tout ce qu'il a demandé grâce à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La suite du récit nous montre aussi que construire ensemble nécessite de pouvoir ouvrir les yeux sur l'action de Dieu pour en tirer encouragement. Arrivé à Jérusalem, quelle est la vision de Néhémie? Un mur détruit, une muraille en ruine. Et les hommes et les femmes qui vaquent à leur occupation comme si de rien n'était. Il doit mettre un instant dans la tête de Néhémie. Et sur votre réaction. Moi, je connais mon tempérament, je sais. L'église est en ruine, ils ont fait des agapes en laissant l'église en ruine, faisant la fête. Votre réaction. Alors moi, j'aurais écrit un sermon en trempant ma plume dans le vinaigre. Et je vous garantis, c'est certainement pas un savon. Logique, non? C'est pas la logique de Néhémie. Et c'est là l'incontournable. Que fait-il? Il les encourage. Comment? En lui livrant son témoignage et ce que Dieu a fait dans sa vie. Il raconte ce que l'empereur a fait. La réponse à sa prière. Et suite à cela, que fait-il? Il les encourage. Allez, construisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans une situation d'humiliation. Néhémie 2, 17, 2, 18, il raconte son témoignage. Et le résultat est extraordinaire. Sans manier le fouet et le bâton, mais en maniant l'encouragement. Néhémie obtient ce résultat extraordinaire. La réaction du peuple est unanime. Levons-nous, disent-ils, d'une seule voix, dit bâtissons. Néhémie 2, 18. Ils reprirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Alors que les reproches auraient pu casser le peuple, ces encouragements produisent tous les faits souhaités. Chaque fois que l'on m'invite pour un week-end d'église, je dresse une liste de tous les thèmes que je peux apporter. Sur une dizaine d'églises, Le thème qui est choisi, c'est celui de l'encouragement. Et j'en ai déduit que c'est un des éléments sur lesquels l'Église doit travailler. L'encouragement. L'encouragement. Vous encouragez? Vous encouragez-vous les uns les autres? Combien de fois allez-vous aller voir un conseiller? Je ne sais pas tout ce qui se passe dans le conseil, mais je sais que vous réussissez souvent et que vous prenez soin de l'Église. Merci. Ceux qui s'occupent de l'école du dimanche, ceux qui s'occupent du ménage, ceux qui s'occupent des fleurs, de la musique, et je pourrais allonger la liste. On est tellement enclin à pointer du doigt ce qui ne va pas. Le témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie est un puissant stimulant pour nos frères et sœurs. Il peut réellement insuffler un nouvel élan chez ceux qui se sont dans la bonne direction pour construire ensemble. La plupart des humains savent faire des reproches. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour faire des reproches. L'exemple de Néhémie nous pose surtout cette question. Oui, savons-nous nous aussi encourager? Connaissons-nous la force de l'encouragement? Et voilà le pas plus au pied du mur. Je terminerai par là. La tâche est immense. La muraille a une longueur approximative, 4,5 km. Et qui pouvait monter jusqu'à 20 mètres. La muraille comportait des endroits stratégiques, des portes. Ce sont elles qui vont permettre aux flux, les flux et reflux de la vie de la cité. Travailler à l'installation de ces portes ou des tours qui sont mentionnées était peut-être valorisant. Même entre elles, certains devaient se distinguer. Et là, j'aborde, en fait, savoir travailler à notre place et dans différents endroits. Il y avait différentes portes. La porte des brebis. 3-1. Ça, c'était une porte qui était valorisante. C'est par là que passaient les brebis pour aller au sacrifice. Et vous savez l'importance, justement, du sacrifice dans la vie de la cité. Donc, quand on travaillait à cette porte, on savait, voilà, l'importance. Elle était proche du temple. Mais s'il y avait une autre porte, celle du four, la porte du four, c'est bon, les croissants, les viennoiseries, le pain, ah, travailler au four, ça c'était valorisant. Il y avait une autre porte, celle du fumier. Sur les trois portes, où est-ce que vous voulez être? La porte des brebis? La porte du four ou la porte du fumier? Hein? Je sais quoi? Moi je sais en tout cas. Et pourtant les trois portes sont indispensables. Imaginez qu'il n'y ait plus de lieu de passage pour simplement faire sortir toutes les ordures. Vous voyez l'état d'hygiène de la ville? Juanita, que vous connaissez bien, disait quelque chose qui m'a une fois frappé. Elle m'a dit, tu sais, Nordine, à quoi on reconnaît qu'une église est accueillante? J'ai dit, quand on se dit bonjour les uns et les autres. Non. Elle me dit, tu sais, c'est quand les toilettes sont propres. C'est intéressant. C'est-à-dire que le soin de l'accueil va jusque dans ces lieux secrets. C'est comme ça que Jésus appelait les toilettes les lieux secrets. Souci d'accueillir jusque dans les moindres détails. Être là où on doit être, quelle que soit la tâche. Et chacune de ces portes était importante. les ouvriers ont avant tout, dans ce chapitre 3, le souci de la solidité de la muraille. Et chacun est solidaire les uns des autres, se faisant mutuellement confiance, travaillant avec minutie. Vous savez pour quelle raison? C'est que le travail de l'un, c'est que la sécurité, en fait, du travail, ma sécurité, je vais y arriver, ma sécurité dépend du sérieux du travail de l'autre. Imaginez que dans ce travail de la muraille, quelqu'un bâcle son travail. La fissure, la brèche peut être faite, l'ennemi s'introduit. Le sérieux avec lequel je le fais vise la sécurité, mais aussi la sécurité de mon frère ou de ma sœur. Nous oublions aussi facilement qu'il en est ainsi dans l'Église. Notre sécurité dans l'Église dépend en grande partie de mon frère et de ma sœur, de son souci de fidélité à Dieu, d'unité de l'Église et de rigueur dans l'écoute de la parole de Dieu. Que de divisions se sont produites, faute d'avoir pris conscience de notre co-responsabilité dans cet ouvrage collectif qu'est la vie communautaire. Sommes-nous attentifs à bien travailler les uns à côté des autres pour que personne ne laisse de brèche. Chapitre 3, et je vous invite à lire juste quelques versets pour donner la tonalité de cette construction. Et Akib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en fixèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananaël. À côté de lui bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zaccour, fils d'Emri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons et la charpentèrent et en fixèrent les bâtons, les verrous, les barres. À côté d'eux travaillaient aux répartitions Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travaillaient Meshalum, fils de Béréka, fils de Mekazabel. À côté d'eux travaillaient Tsadok, fils de Baana. Quel est le refrain? Pardon? À côté d'eux. À côté d'eux. Mais dans l'Église, nous sommes tellement non pas à côté, mais face à face. À côté et face à face. Se tenir les coudes, face à l'expression, nécessite que nous soyons côte à côte. Côte à côte. Le chapitre 3 nous montre que malgré les différences familiales, les différences sociales ou même de sexe, il y avait des femmes. Chapitre 3, verset 12. Les Israélites sont là, les uns à côté des autres, pour construire ensemble l'œuvre que Dieu leur a confiée. Pour construire ensemble l'œuvre de Dieu, il faut accepter nos différences, mais aussi apprendre à aimer et valoriser les différences de l'autre, qui bâtit aussi à sa manière. Pour construire ensemble, il faut accepter d'être l'un à côté de l'autre. Et c'est-à-dire que tout était parfait et que l'on travaillait en harmonie. Vous voyez, c'est là, c'est cette liste du chapitre 3. On le saute, on ne le lit pas hein, parce que c'est justement rébarbatif. Mais si on prend un peu, si on fait un peu d'effort, on en tire des leçons. Parce qu'au chapitre 3, verset 5, il y avait des grincheux. Vous voyez, notez, hein, exemple, les notables de Tekoa qui refusaient de travailler sous les ordres de maître d'œuvre. Il y avait aussi des grincheux à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette liste, on n'en fait pas une montagne. C'est dit juste en passant. Il est facile de leur relever un défaut et de le monter en mayonnaise. Comme si plus on parlait du problème, mieux on allait régler le problème. Ici, dans cette liste, ce bémol ne gâche pas la belle harmonie qui règne tout au long de la muraille. La construction de cette muraille a duré 2 mois. Dieu aurait pu se passer des Israélites pour construire cette muraille. Mais ce travail difficile a œuvré à l'unité du peuple. Chacun a porté sa pierre, petite ou grande. Chacune, quelle que soit sa taille, a contribué à la beauté de l'édifice. Et cette aventure audacieuse a montré la fidélité de Dieu contre toutes les embûches. Nous ne sommes pas arrêtés, mais les ennemis d'Israël, plusieurs fois dans ces passages, ont essayé de cassé ce bel élan. Malgré cela, le peuple a pu constater combien le Seigneur est grand, puissant et fidèle. Et quelle destinée pour ce travail, contribuant à la réalisation d'un dessein bien plus grand que nous-mêmes. Les bâtisseurs imaginaient-ils que le Seigneur en personne passerait sous les portes qu'ils relevaient. Les murailles encore debout étaient encore debout lorsque Jésus, peu de temps après Pâques, passait par là. N'oublions pas l'objectif. Dans le Nouveau Testament, l'Église fondée sur cette pierre est comparée à un édifice en construction. On peut mettre le dernier verset. Je vous propose de lire ensemble. Quelqu'un veut-il lire ce texte à haute voix ? Vas-y, lis-le. Merci. Par la grâce de Dieu, nous sommes à la fois les pierres de cette construction et ceux qui contribuent à son édification. Et ce texte de Néhémie nous invite à nous interroger sur la manière dont nous engageons dans l'œuvre que le Seigneur nous confie. Quelle place est-ce que je prends dans la maison, dans la mission que Dieu me confie? Avec quel esprit est-ce que j'œuvre dans et pour l'Église, avec mes frères et sœurs? Des questions qui nous orientent, qui peut-être nous réorientent pour construire ensemble à la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à un temps de recueillement. Si l'un ou l'autre veut faire monter vers Dieu sa prière, qu'il le fasse vraiment toute liberté. Et notre Dieu, tu nous appelles à travailler dans ton champ, dans ton œuvre. C'est une grâce immense que tu nous fais. Une grâce en prenant compte la responsabilité que tu nous confies. Responsabilité immense. Car tu connais, Seigneur, nos travers. Tu connais nos fragilités. Seigneur, tu prends le risque et tu as pris le risque que nous entachions cette œuvre de construction. Et tu le fais aussi pour nous faire grandir. Et élaborer aussi avec toi une relation qui est dépendante de ta volonté. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su construire comme tu voulais. Nous avons mis en priorité nos désirs plutôt que les tiens. Nous avons manifesté un esprit d'indépendance par rapport à ton projet. Seigneur, merci parce que nous pouvons encore ce matin compter sur ta grâce et sur ton pardon. Nous pouvons aussi compter sur l'œuvre de ton Esprit Saint dans nos vies pour que tu puisses nous former intérieurement. Et former intérieurement un esprit qui et ressemble au tien. Et plus profondément, Seigneur, que tu crées en nous cette image de Christ, pour qu'elle reflète vraiment dans tous les aspects de notre vie, et particulièrement dans l'engagement à l'égard de ton œuvre. Nous prions, Seigneur, pour notre Église ici, comme pour les autres églises sur la surface de la terre. Seigneur, dirige ton peuple, conduis-le, fais en sorte, Seigneur, qu'il puisse vraiment être soucieux de voir ton œuvre s'épanouir, prospérer dans les contextes différents, pour que vraiment ton message, ce message d'amour, puisse ne jamais être entaché par notre orgueil, par notre indifférence. Nous te le demandons en ton nom. Amen.